Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire très douloureuse de Betty Manochet. Telle qu'elle la raconte dans son livre chez City, ça n'était pas de l'amour. Elle a été abusée par son père dès l'âge de 10 ans, et sa sœur Virginie aussi, et avec la complicité de leur mère. Elle a dû avorter plusieurs fois, la première fois à l'âge de 13 ans. À 18 ans, elle a porté plainte, mais sous l'emprise de son père, elle a fini par retirer sa plainte. J'ai écrit cette histoire avec Tuc Duhal de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Il y a 2 ans, j'ai récupéré un carton de photos de famille. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai attendu de m'en sentir la force. Je savais que ce serait une plongée dans les profondeurs, sans bouteille d'oxygène. En apparence, ces images racontent une famille française banale. La première photo est une photo prise à un mariage au début des années 90. Mon père porte le costume cravate. Il a les rondeurs du cadre qui a réussi dans la vie. Ma mère est en tailleur rose et en chemisier blanc. Ma sœur Virginie et moi sommes bien habillés et belles comme des cœurs. Et mes deux frères ont leur casque de cheveux blonds qui les fera comparer toute la journée au fils de Claude François. Une chromo de la réussite française. À l'époque, quand nos voisins nous croisent, ils nous saluent avec respect. Ils nous envient même. Parce que mon père a une plus belle voiture qu'eux. Parce qu'il a aussi une moto pour les week-ends. Et même un petit avion de tourisme. Nous passons pour des privilégiés. Personne ne peut imaginer qu'une fois passées les portes de la maison, nous vivons un enfer. Personne. Sur une autre photo, nous sommes au camping de Quiberville. Parfaite mise en scène de la famille française en vacances. Sauf que moi, je sais que cette mise en scène n'a duré que le temps de la photo. Qu'un quart d'heure plus tard, les garçons étaient expédiés à des activités à l'autre bout du camping. À tout à l'heure, ma mère et Virginie partaient en vadrouille. On va faire les boutiques. À tout à l'heure. Et moi, j'ai été abusé par mon père dans la caravane. Je nais le 7 septembre 1983, 9 mois après la mort de ma sœur Stéphanie, décédée d'une mort subite du nourrisson. Il paraît que je suis son portrait craché.
Oh, elle ressemble à Stéphanie, vous trouvez pas ?
À partir de là, mes parents ont avec moi un rapport bizarre. Celle qu'ils ont du mal à regarder sans penser à l'autre. J'aurais dû être un pansement. Je serais leur souffre-douleur. Dorénavant, il y a Virginie, ma sœur aînée, blonde, cendrée, jolie fille, la plus belle, la meilleure, la duchesse, comme ils l'appellent. Et puis moi, tout l'inverse, un garçon manqué. Au début, ils m'appellent la grosse. Et après Alfred, parce que quand on ressemble à un garçon, il faut être appelé comme un garçon. Et quand quelques années plus tard arrivent deux garçons, de vrais garçons, ils sont mis de côté. Ses frères et moi, nous ne nous connaissons pas, ou très peu. Nous n'avons pas le même vécu. Ils ont toujours ignoré ce qu'il m'arrivait. Quand mon père rentre du travail, on entend le moteur de sa voiture au loin. Et là, on doit tout lâcher. Les voisins, les jeux, et filer à la maison. Nous sommes censés être tous à l'intérieur quand ils passent le pas de la porte. À ce moment-là, on entend une mouche voler. Pas un sourire, rien. Le froid et la peur. Quand il arrive, je dois lui mettre ses chaussons. Et à table, quand il fait teinter son verre, ça veut dire que je dois remplir le verre. Le repas terminé, il tape dans les mains. Et il faut débarrasser, et vite, hein, sans faire de bruit. Idem pour la salle de bain. Elle doit être prête. Le chauffage mis, le bain à température, les produits à leur place. Et quand on regarde la télé, il doit y avoir son programme et sa télécommande disposée comme il aime. Et quand on regarde un programme avec mes parents, c'est toujours sur son idole, Adolf Hitler.
C'est notre wunsch und wille. Dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Sieg Heil!
C'est un homme d'ordre et de grande ambition. Il a été très mal compris de son temps. Pendant des années, si je fais une bêtise, si j'ai une mauvaise note, par exemple, je suis puni. À genoux ! Pas pendant 10 minutes, mais toute la fin de journée. Il est devant la télé, et de temps en temps, il regarde pour vérifier. Parfois, il met même un miroir pour ne pas avoir à se retourner. Un jour, je n'ai pas encore 10 ans, et c'est ce jour-là que tout se met en place. Mon père m'appelle de sa voix rauque.
Betty !
Je monte l'escalier, je rentre dans sa chambre. On ne rentre jamais dans sa chambre. Ça doit être grave. Je m'attends à une rouste. Mais ce sera bien pire. Je ne peux pas raconter ce qui s'est passé. Mais ça ne devrait jamais arriver entre un adulte et une enfant. Et encore moins entre un père et sa fille. Ça a été douloureux, ignoble.
C'est normal, Betty. Ça se fait dans toutes les familles, tu sais.
Mais moi, j'ai senti que ça n'était pas normal. Je me suis retrouvé nu sur la couverture. Et lui, il s'est rhabillé, il a fermé la porte, et il est parti rejoindre ma mère à un concours de colombophilie. Et moi, je n'ai rien osé dire. On m'avait tellement appris à me taire. Quand je sors de la chambre, je me retrouve face à ma sœur, Virginie.
« Ma tête est où ? Je t'ai cherché partout. J'étais nulle part. Je t'ai vu dans la chambre des parents. J'ai vu ta chambre qui sortait du lit. Allez, viens. Viens dans mes bras. On va attendre maman, et puis on va tout lui raconter. »
Mes parents rentrent. Mon père va se laver. Virginie me prend la main.
« Viens. Viens, on va voir maman. » Maman, ce que papa m'a fait, eh ben il le fait aussi à Betty.
Elle aussi? Je le savais pas. C'est là que je l'apprends. Et ma mère qui répond.
Ah bon?
Et elle passe à autre chose. À partir de là, se met en place un planning organisé par ma mère. C'est elle qui choisit qui de Virginie ou de moi doit monter dans la chambre. Elle organise ça en fonction de ses envies de shopping ou plus tard de nos règles. Je monte en moyenne 3 fois par semaine. C'est lui qui commence. Et ma mère doit écouter à la porte parce que dès qu'il part, elle rentre dans la chambre. Et à son tour, elle me caresse la poitrine. L'horreur. Et parfois, ils sont là tous les deux. Ils me touchent. Et il touche sa femme en même temps. Et moi, je me dis, je suis rien. Je suis qu'une merde. Et ce qui devait arriver, arrive. J'ai 13 ans. Moi, 2 mois et demi après mes premières règles, je tombe enceinte. Alerte, danger, il faut me faire avorter. C'est ma mère qui gère tout. C'est elle qui me fait répéter ce que je dois dire devant les médecins du planning familial.
Eh bien, tu vas dire que tu t'es sauvé, hein? Pour retrouver un copain de ton âge, hein, que tu as couché avec lui, et puis voilà. D'accord?
Et moi, je m'exécute, comme un bon petit soldat. C'est terrible, une IVG à 13 ans.
Bien, jeune fille. Je vais te donner un médicament pour stopper ta grossesse. Et donc on se reverra dans 3 jours, hein, pour régler ça.
Et dès que nous sommes seuls, ma mère appelle mon père.
T'inquiète pas, c'est en train de se faire.
Il est au ski avec Virginie. Et à la fin, elle le rappelle.
C'est bon, c'est fait.
Pour tout le monde, cette chanson de Gainsbourg est un morceau d'anthologie de la chanson française. Dans la tête de mon père, c'est une validation de son modèle. Pas pour moi. « Mes parents prennent des médicaments pour les nerfs. Et un jour, Virginie me les met entre les mains.
Tu avales ça? Et une fois que t'es à l'hôpital, tu balances tout ce qui se passe ici.
Mais moi, j'hésite. J'ai peur d'y passer. Alors je fugue 24 heures. Et 15 jours plus tard, je refugue plus longtemps.
Les voisins commencent à jaser. Alors une nuit, comme des voleurs, on déménage pour une maison isolée au milieu de la forêt de Compiègne, loin de tout. Et c'est là que Virginie et notre mère permutent leur rôle.
C'est-à-dire que mon père et Virginie s'installent dans la partie centrale de la maison, ma mère et moi et notre petite sœur dans l'autre partie, et mes frères dans le chalet en bois au fond du jardin. Et à partir de là, mon père ne m'appelle plus ni Alfred, ni la grosse, il m'appelle la pute.
Virginie a maintenant 18 ans, et un jour, elle ose inviter son amoureux. Mon père rentre à l'improviste.
« Qui c'est celui-là ? » ?»«
Ben c'est mon mec. » Et mon père en conclut qu'il va lui faire un enfant à Virginie. Et un vendredi après-midi, le test est positif. Et nous devons nous réjouir. Alors je me réjouis. Et ma mère achète de la layette. C'est fou ! C'est fou !
J'ai 18 ans, je suis à nouveau en fugue. Et un jour, je décroche le téléphone et je compose le 119, le numéro de l'enfance en danger.
Mademoiselle, il vous faut absolument aller à la gendarmerie la plus proche. Hein. Il faut y aller. Hein.
Je suis reçu par un adjudant qui prend ma plainte très au sérieux et qui m'oriente vers un foyer. À l'époque, je l'ignore, mais le destin fait que c'est ce jour-là que naît Quentin, le fils de Virginie. Et dans ce foyer, je rencontre une amie qui a un copain qui deviendra le père de mes premiers enfants. Et sa famille m'adopte tout de suite. Et elle devient ma famille. Une autre planète. Les gendarmes ont placé mes parents et Virginie sur écoute. Et un jour...
Bien, vos parents sont placés en garde à vue dans nos locaux, mademoiselle. On a besoin que vous passiez. Hein.
Ça y est, je ne risque plus rien. Mais à cause de moi, mon père va aller en prison. Quand j'arrive à la gendarmerie, ma mère fonce sur moi.
« Oh, ma petite chérie, tu m'as tellement manqué !»
Ça sonne tellement faux. Et Virginie, je m'attendais à ce qu'elle me remercie. Me remercie d'avoir eu le courage.
« Betty, tu te rends compte de ce que t'as fait ? Tu détruis tout, Betty. Tu te rends pas compte, ils vont m'enlever mon fils ?» Il faut que tu dises que c'est pas vrai, Betty, que t'as raconté n'importe quoi.
Je deviens donc celle qui détruit ma famille. La coupable, c'est encore moi. Pour les gendarmes, l'affaire est pliée avec la perquisition. Ils surprennent Denis sortant de la chambre alors que Virginie est encore au lit. Et les analyses génétiques pratiquées sur Quentin sont formelles. Il est bien son père et son grand-père. Et donc mon père file en prison. Et Quentin est effectivement placé à l'aide sociale à l'enfance. Et ma mère part dans un foyer de femmes battues. Et Virginie m'en veut.
Tu te rends compte? T'as tout gâché! Je veux plus jamais te voir!
Au début, ma mère n'est pas impliquée. Mais mon père la balance. Il écrit au juge d'instruction. Elle est au moins autant, voire plus coupable que moi. Elle organisait les ébats et y participait. Et là, ma mère me demande de mentir. Mais je ne mens pas. Et je vois les gendarmes lui passer les menottes et l'embarquer. La relation reste très compliquée avec Virginie. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on soit devenu ennemi, que je sois responsable de tous ces malheurs. Je ne veux pas la perdre à jamais dans cette bataille contre nos parents. Alors je l'appelle. Ok, Virginie, je vais changer de version. Je vais dire tout ce que tu veux, Virginie, pour ton bonheur. Hein? Pour toi, je veux bien oublier la vérité. Et c'est ainsi que 8 mois après ma dénonciation, je retire ma plainte. Notre dossier ne s'en remettra jamais. Il mettra 10 ans à être renvoyé devant la cour d'assises parce que, du coup, il est devenu bancal. Et c'est pas fini. Virginie me demande d'écrire à mon père pour m'excuser.
Il faut que tu dises que j'étais amoureuse de lui, hein, et qu'il m'a jamais frappé.
Et je le fais. Et du coup, avec Virginie, on redevient complice. Et moins de 2 ans après leur incarcération, nos parents sortent. Et le jour de leur sortie de prison, toute la famille se retrouve au bowling karting de Compiègne. Et les parents s'embrassent. Et ils passent la soirée ensemble. Mais comment est-ce possible? On ne s'en sortira donc jamais. Virginie a récupéré Quentin. Et elle s'installe avec mon père et le gamin dans un appartement. Légalement, ils n'en ont pas le droit. Mais quand les services sociaux viennent, ils se planquent dans la salle de bain. Et ma mère, vous savez où elle s'installe, ma mère? Dans l'appartement juste au-dessus. Et les parties à 3 reprennent de plus belle. Ma mère devient la nounou gratuite de Quentin. Tout ça, comme si c'était tout à fait normal. Mon père se lance dans une nouvelle entreprise, un garage, au nom de Virginie. Et moi, je m'étais pourtant promis de ne pas revenir dans la secte. Mais on m'a au sentiment. 5 ans après sa sortie de prison, mon père m'appelle.
Virginie est en grande dépression, tu sais. Tu lui manques trop.
Et voilà comment j'accepte le poste de secrétaire commercial dans le garage. Et puis, le grand jour arrive. Le procès devant les assises de Beauvais. On y arrive tous ensemble, puisque mes parents comparaissent libres. Alors que nous sommes les victimes et eux les accusés. Et quand un accusé comparaît libre, il jouit forcément d'un préjugé favorable. Et mon père s'est tellement bien enjoué. J'ai l'impression de vivre une pièce de théâtre mise en scène par lui et par ses avocats. À la barre, les gendarmes sont droits dans leurs bottes.
L'enquête a clairement établi les faits et leur gravité. Il y a bien eu inceste, c'est-à-dire viol par personne ayant autorité sur une mineure de moins de 15 ans. Ce qui s'est passé après ne nous concerne pas.
Puis vient le tour de Virginie.
Vous vous êtes reconstruite aujourd'hui, mademoiselle?
Oui. Oui, je me suis reconstruite. C'était compliqué au vu de mon histoire, mais j'y suis parvenu. Par contre, je n'ai plus du tout confiance en les hommes. Maintenant, je préfère les femmes, je suis lesbienne.
Mais enfin, c'est faux. Mais personne ne va le vérifier.
Officiellement, mon enfant n'a pas de père. Mais il sait, hein. Il sait que mon père est son père. Et il se voit un week-end sur 2.
Enfin, c'est encore faux. Ils vivent sous le même toit. Ma sœur raconte n'importe quoi. Et tout le monde semble la croire. Et maintenant, c'est à moi de parler. Je sais que je vais mentir. Le discours qu'on a préparé pour moi n'est pas la vérité de Betty, la petite fille abusée. Je regarde ma sœur. Et puis le tribunal, j'inspire et je me lance.
Je m'excuse d'avoir fait ça à ma famille. Je m'excuse d'avoir envoyé mes frères et mes sœurs et aussi mon neveu à l'aide sociale à l'enfance.
Je m'excuse pour l'incarcération de mes parents. Si j'ai fait du mal, c'est parce que j'étais une sœur jalouse. Parce que Virginie avait tout et moi rien. Et je dois reconnaître que j'étais amoureuse de mon père. Et que c'est moi qui l'ai sollicité pour recevoir autant d'attention que ma sœur. Et puis aussi, je couchais à droite, à gauche.
Dites-moi, Madame Manchet, du coup, à quel âge tout a commencé? C'est la grande question. Et là, un gouffre s'ouvre devant moi. Parce que soit je réponds le mensonge prévu, soit je dis la vérité et tout
explose. Eh bien, c'était au moment de la tempête de 1999. Je me souviens, là, la cheminée du voisin est tombée sur la chambre de ma sœur. C'est cette nuit-là que tout a commencé. C'est cette nuit-là que j'ai demandé à mon père qui couche avec moi.
Et là, les jurés font le calcul eux-mêmes. En octobre 1999, jour de la tempête, j'avais 16 ans. Pas 8, pas 10, 16. Et donc j'étais majeur sexuellement. Et donc ça n'est pas un viol sur mineur de moins de 15 ans. Au pire, c'est une agression sexuelle. Et encore, je suis la demandeuse. Ce témoignage a été une horreur pour moi. L'impression d'être dégoûtante. Personne ne m'a poussé dans mes retranchements, personne ne m'a bousculé. Et pourtant, il n'aurait pas fallu beaucoup pour que je craque.
Monsieur et Madame Manchet, levez-vous. La cour vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour monsieur et 5 ans pour madame, sans mandat de dépôt. L'audience est levée.
Condamné, mais libre. Ils iront en appel. Et moi, je repars avec en bandoulière de l'amertume, de la peur et de la honte. En appel à Amiens, ce qui se joue est tout aussi faux. Virginie va à la barre.
Je suis tombée amoureuse de mon père. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est ainsi. On choisit pas quand l'amour vous tombe dessus. Disons que c'est notre choix de vie. Pourquoi la société se permettrait de juger notre amour?
Et là, l'avocat de mon père se lève.
Pourquoi défendez-vous votre père, madame?
Parce que je l'aime.
Parlez plus fort, madame, je suis sûr que les jurés ne vous ont pas entendu. Parce que je l'aime. Bien, je n'ai plus de questions.
Moi, je redis ce que j'ai déjà dit au premier procès. Quant à mon père, il se dégage de toute responsabilité.
Moi, j'ai eu le sentiment qu'elles étaient consentantes.
Pourquoi avez-vous fait un enfant avec Virginie, monsieur, et pas avec Betty?
Ben parce que Virginie, je l'aime. Et Betty, je l'aime pas.
Le psychiatre dresse de mon père un portrait violent. Et
je dirais que l'inceste est la pire des choses. Il n'y a pas d'inceste heureux.
Et là, l'avocat de mon père le coupe. L'ogre, celui que vous appelez acquittateur.
J'entends ce que vous dites, docteur. Mais ça n'est pas ce que nous observons depuis le début du procès. Enfin, cette femme de 30 ans, énergique, qui sait ce qu'elle veut et qu'elle ne veut pas, elle nous dit qu'elle aime son père. Alors, docteur, êtes-vous sûr de votre théorie? C'est-à-dire que mon expertise date de 10 ans maintenant. Vous m'informez qu'ils vivent toujours ensemble et qu'ils sont heureux. Ils sont peut-être le rare exemple d'inceste réussi. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Répétez pour que les jurés vous entendent bien. Je dis qu'il y a peut-être des incestes heureux.
Le délibéré est court.
Monsieur et Madame Manchet, levez-vous. La cour vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne M. Manchet à 5 ans de réclusion criminelle, dont 2 ans avec sursis, et Mme Manchet à 4 années de réclusion criminelle, dont 2 ans avec sursis. L'audience est levée. Mon père et ma mère sortent du tribunal bras dessous, triomphants. Et moi, je décide de ne plus les revoir. Jamais. Deux ans plus tard, je suis au travail.
Betty, il y a eu un appel pour toi. Apparemment, c'était ton père. Faut que tu le rappelles.
Des sueurs froides coulent dans mon dos. Je compose son numéro en tremblant.
Betty, Virginie est partie depuis 2 semaines. Elle m'a laissé comme un chien.
Il a mis du temps. Il l'a cherché partout. Et il a fini par la retrouver. Et un mardi, à 7 heures du matin, il l'a tué. Il l'a tué devant Quentin. Une balle dans l'épaule et une autre dans la tempe. Et il a tué aussi le garagiste chez qui elle travaillait. Et après, il s'est tiré une balle dans la tête. Mais il n'est pas mort, lui. Il va survivre. Hémiplégique, mais vivant. Denis Manéchet a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est mort le lendemain d'un arrêt cardiaque dans sa cellule. Il a été enterré à la fosse commune. Aucun de ses proches n'était présent. J'ai tiré cette histoire du livre de Betty Manéchet chez City. Ce n'était pas de l'amour.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelque chose à vous dire. Si les affaires criminelles vous intéressent, vous aimez sûrement aussi les séries télé inspirées de faits divers réels comme Le Serpent sur Netflix ou l'histoire du tueur en série Karl Sobrage. Alors je vous recommande l'écoute d'un podcast qui consacre son dernier épisode aux séries True Crime. Le podcast s'appelle Sériland et vous le trouverez sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.